Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bonsoir aux amateurs du ballon rond. Bienvenue dans l'Amérique et vous, ce soir sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous parlons de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Eric Manilakiza avec vous, Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Lors de leur deuxième match du groupe B au Mondial 2022, ce vendredi, les États-Unis affronte l'Angleterre qui dit ne pas sous-estimer ses adversaires. Face au pays de Galles, Timothy Weah, le fils du président du Liberia, George Weah, a inscrit le nom de la famille dans le livre d'or de la Coupe du Monde en permettant aux Américains d'ouvrir le score. Les Lions indomptables du Cameroun se sont inclinés ce jeudi sur un but de l'attaquant né au Cameroun, Brand Embolo. Binationaux, réfugiés, on parle aussi de ces joueurs qui ne représentent pas leur pays de naissance. Encore une fois, bienvenue à vous tous et dans cette édition de l'Amérique et vous, je suis en ligne avec Eric Kossi Chopin. Il est coach de foot. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
À Ottawa au Canada, Tarsis Harerimana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du ballon rond. Bonsoir Tarsis.
Bonsoir Eric.
Voilà, le Nord-Américain est très présent dans ce mondial 2022 au Qatar. Tarsis, le football a beaucoup évolué aux États-Unis et au Canada, vu les dernières performances de leur sélection.
Oui, quand on commence par les États-Unis, il faut dire que l'équipe qui est en train de jouer contre l'Angleterre, c'est une équipe très rajeunie. Cette équipe, c'est une nouvelle génération qui n'a pas, c'est vrai, participé à aucune Coupe du Monde, peut-être en joueur, qui n'est même pas aligné aujourd'hui. Mais du côté Canada, là aussi, c'est un grand événement quand on sait que c'est une équipe multicolore, c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui a aussi des joueurs qui évoluent à l'extérieur, tout comme les États-Unis. Franchement, c'est ce qu'on peut appeler la diversité dans le jeu. Et ça m'intéresse beaucoup quand on fait des études de sport au niveau sociologique.
Et Eric Kossi, vous êtes coach. Est-ce que vous pensez que les deux équipes peuvent aller loin dans ce tournoi planétaire?
Pertinente question. Vous savez, si on prend l'exemple de l'Angleterre, qui a fini quatrième lors de la dernière Coupe du Monde en 2018, perdant en demi-finale contre la Croatie, un match qui a été très difficile pour la Croatie. Après, ils ont gagné ce match durant les prolongations, prolongation et pénalty, donc ça veut dire que c'était très 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 difficile. Donc là, aujourd'hui, si on prend l'équipe de l'Angleterre, pratiquement les 99% jouent dans le championnat anglais, dans les très 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 grands clubs comme Manchester United, comme Manchester City, comme Chelsea, Liverpool, Arsenal, c'est les cadets en or aujourd'hui du championnat anglais. Et on sait que le championnat anglais est le meilleur championnat aujourd'hui au niveau mondial. Donc ça veut dire que je vois l'Angleterre se qualifier parmi les quatre en demi-finale et pourquoi pas en finale. Ensuite, en ce qui concerne les États-Unis, oui, une équipe très jeune, moyenne d'âge 25 ans, ouais. Et la majeure partie des joueurs aussi sont à l'étranger, à savoir 16 à 17 joueurs jouent aujourd'hui à l'étranger, à savoir en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Turquie, en Scotland. Et pratiquement, on n'a que 8 à 9 joueurs qui jouent en MLS. Ça veut dire que c'est une équipe aujourd'hui qui peut performer au haut niveau. Parce que, jouant dans les plus grands clubs aussi en Europe, donc ça veut dire qu'ils peuvent rivaliser contre ces mêmes équipes qui ont pratiquement l'essentiel de leur ossature, l'essentiel de leur groupe jouant en Europe. Donc il y aura une rivalité durant ces matchs-là, et je pense que les deux équipes ont la possibilité de se qualifier. Sachant que ce sera très difficile pour les États-Unis, ça c'est vrai, parce que sur les dix dernières rencontres entre l'Angleterre et les États-Unis, il y a eu un match nul, en fait deux matchs nuls et 7 matchs gagnés par l'Angleterre et une seule victoire des États-Unis, et ça date des années 1950. Donc ça veut dire que, donnons la chance à l'Angleterre, mais possibilité aussi des États-Unis de faire la différence et d'être dans le carénage. On verra. Ouais.
Tarsis, le match vient de commencer. Les premières minutes montrent une nette domination des Anglais. C'est une rencontre qui ne va pas être facile pour les États-Unis, mais est-ce qu'il y a moyen de créer la surprise ?
Oui, la surprise existe toujours au Mondial. On vient de le dire, ce ne sera pas la première fois que d'ailleurs les États-Unis gagnent contre l'Angleterre. Rappelez-vous, en 1950, les USA avaient battu l'Angleterre 1-0 avec Sobi qu'on montre à la télévision. D'ailleurs, un film qui a été tourné de Joe Gadjans, c'est un Américain qui avait marqué, il avait dévié d'ailleurs ce tir dans les filets. Il faut dire aussi, comme on vient de le dire, que l'Angleterre c'est une équipe redoutable. Il n'y a qu'un seul joueur, Bellingham, qui joue au Borussia, mais tous les joueurs jouent au championnat anglais. Comme on le disait tout à l'heure, attention, moi je tiens compte peut-être à ce bloc défensif que je suis en train de voir, qui est composé par quand même des bons joueurs qui évoluent au championnat en Europe, comme Fulham, je vois Robinson, Reim au Fulham, donc Valence aussi avec Linus Moussa. Évidemment, c'est une équipe qui va d'abord essayer de mettre un schéma défensif pour contrer les Anglais avant de repartir, et qui compte sur aussi des bons attaquants, comme vous le disiez tout à l'heure, avec Weah, ce jeune qui a marqué et qui a retrouvé finalement sa place dans cette équipe anglaise. Donc, évidemment, ça sera difficile, comme on l'a dit tout à l'heure. Pays de Galles contre les États-Unis, on ne peut pas mesurer la puissance des États-Unis face à ce pays. États-Unis-Angleterre, c'est un match délicat pour les États-Unis, parce que si les États-Unis perdent ou égalisent, ça sera difficile. D'autant plus qu'il y aura ce dernier match contre l'Iran, et l'Iran qui s'est réveillé aujourd'hui.
À la veille de leur rencontre contre le pays de Galles, le président Joe Biden a tenu à leur parler en guise de soutien par tout le pays. Suivez cette conversation.
Here we go, guys. Showtime, guys. You ready?
C'est parti, les gars. C'est l'heure du spectacle, les gars. Vous êtes prêts? C'est écrit Potus. C'est de là que ça vient.
Coach, put me in, I'm ready to play.
Oh, coach, mets-moi sur le haut-parleur. Je suis prêt à jouer, les gars.
You guys, I know you're...
Je sais que vous êtes des outsiders, mais je veux te dire, mec, vous avez certains des meilleurs joueurs du monde dans votre équipe et vous représentez ce pays. Et je sais que vous allez jouer de tout votre cœur. Alors, nous allons choquer tous. Regardez, gardez confiance les uns dans les autres. Jouez aussi dur que vous le pouvez. Et vous savez, pour vous et vos familles, vos coéquipiers et tout le pays vous encourage.
C'est un très beau message, Monsieur le Président. Toute l'équipe est ici en ce moment et nous apprécions vraiment votre soutien et nous sommes prêts à démarrer la compétition. Les gars, voulez-vous le saluer? Vous lui dites quelque chose?
You get any of that?
Ouais, j'en ai un peu, oui, j'en ai un peu.
I got some of it. A lot of thank yous and a lot of
mille merci et à la gloire des héros.
J'aimerais être là pour assister à votre match. J'aimerais vraiment. Allez les chercher, les gars. Jouez de tout votre cœur. On va y arriver. Je sais que vous le ferez.
Très bien. C'était bien.
Eric, qu'aussi à ce geste du président Biden, espérant que les États-Unis vont se qualifier pour les huitièmes de finale.
Ce sera un honneur pour les États-Unis. En tant que coach depuis 9 ans dans ce pays-là, je vois l'évolution du football et je pense que c'est par rapport à cette évolution et cette performance aujourd'hui des États-Unis en général et du développement du football aux États-Unis aujourd'hui, disons de la MLS, que le président rejoint un peu cette fédération pour leur féliciter et encourager aussi les joueurs pour faire une très bonne performance. Non, en fait, c'est un très bon encouragement et je pense que, bon, quand on voit dans cette équipe-là, Pulisic aujourd'hui qui est en Chelsea, qui joue pour Chelsea et qui joue la Champions League, quand on voit Timothée Weah à Lille, bon, qui a fait Paris, ensuite Lille, c'est des joueurs qui ont un niveau international, qui jouent à un très bon niveau. Mais comparé, comme je disais aux Anglais, ça ne serait pas facile. Mais on verra. On observe, on va voir un peu ce qui va se passer durant ce match-là. Mais les États-Unis peuvent surprendre. En ce moment, comme vous le voyez, ils sont en train de défendre à bloc, très compact au niveau de leurs 30 mètres, c'est-à-dire de leur zone défensive. Et étant compact comme ça, on voit que bon, les Anglais ont certains déchets, n'arrivent pas à pénétrer ce bloc défensif. On verra ce que ça va donner, ouais.
Tarsis, cet appel du président Biden, ça veut dire que la politique et le football riment.
Oui, là, on ne peut pas séparer la politique et le football. Ça fait partie aussi, le sport fait partie de la politique. On l'a vu d'ailleurs lors de la campagne américaine pour l'organisation de la Coupe du Monde, l'histoire avec le Qatar, comment Bill Clinton s'est déplacé personnellement pour faire la campagne des États-Unis. Et puis ensuite, on sait qu'aussi, à ce niveau-là, depuis que les années 70, avec le passage de Pelé au cosmos, les États-Unis font un effort et puis l'organisation de la Coupe du Monde sur le sol américain, ça a permis à ce pays d'avancer, de dire mais écoute, le football, si on a la NBA, le football américain chez nous, on peut aussi ouvrir les portes à d'autres sports internationaux comme le foot. Les États-Unis d'ailleurs étaient demi-finalistes en 1930 en Uruguay. Il y a eu un relâchement. C'est vrai que c'était pas très intéressant pour ce pays de se comparer aux Européens comme l'Angleterre. Mais moi j'ai été étonné depuis les dernières éditions, depuis 1990, comment cette équipe des États-Unis de foot a vraiment fonctionné en se qualifiant cette fois dans ce championnat du monde de football consécutivement. Donc ça fait 11 participations et le rêve des Américains c'est de dépasser les huitièmes de finale, d'aller en quart de finale, pourquoi pas. Évidemment ce sera difficile, mais je pense que là il faut dire que Greg, l'entraîneur, fait attention avec cette équipe anglaise. Il y a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, l'entraîneur, beaucoup de joueurs de talent. On a parlé de pas mal de joueurs. On parle évidemment de Christian de Chelsea, mais il y a d'autres qui jouent au Borussia, à Milan, CFC-Desk. On parle aussi de moi j'aime un garçon qui tout à l'heure Adam qui joue à Nice, et même ces joueurs qui sont en Belgique. Donc c'est vraiment une équipe, à mon avis, complète, qui doit être prudente face aux Anglais. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs sur le terrain. On voit bien qu'il y a un bloc qui est défensif très, 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 très prudent. Et on essaie de relancer, de passer du côté droit et d'essayer en attaquant de pointe. Et ça, c'est réussi. On peut réussir en but face à cette équipe anglaise.
Parlons de cette ouverture du score des Américains contre le pays de Galles. C'est Timothy Weah, le fils de George, qui avait brillé avec Paris et l'AS Milan avant de devenir président de son pays. Ce but a montré l'importance des joueurs binationaux, n'est-ce pas, Tarsis?
Quand on parle des États-Unis, quand on parle aussi du Canada, ce sont des équipes de plusieurs nationalités. Quand on parle du fils du Weah, là il pouvait jouer dans l'équipe de Jamaïque, compte tenu des origines de sa mère, jouer pour le Libéria, jouer pour la France et jouer pour effectivement les États-Unis. Timothy a choisi les États-Unis et c'est vrai que pour moi je suis très content parce que il est en train de vraiment d'être titulaire dans cette équipe des États-Unis. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui sont aussi dans cette équipe, qui jouent pour les États-Unis, tout comme le Canada. Et là, c'est ça, en fait, la diversité dans le sport. Et ça, c'est la force aussi du football. Une sorte d'intégration des joueurs et qui fait que c'est vrai, il y a l'argent qui est à côté, mais il y a le fait aussi que quand on a les meilleurs joueurs, on a la meilleure équipe nationale aussi.
Par ailleurs, les États-Unis ont atteint les demi-finales de la première Coupe du Monde de l'histoire avec 5 Écossais dans leur rang, n'est-ce pas? Revenons sur le cas de Brel Embolo, né au Cameroun et qui a permis à la Suisse de battre son pays d'origine. La réaction des Camerounais a été violente contre Embolo. Pourquoi cet acharnement, selon vous, Kossi?
En fait, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre déjà. Aujourd'hui, on sait que le football se mondialise. Un fils d'origine, disons un joueur d'origine africaine ou d'origine européenne peut jouer dans différents pays, dans différents continents. Je ne vois pas pourquoi les Camerounais s'acharnent sur ce jeune et pourtant qui a montré un geste vraiment noble. Il marque le but, mais il ne célèbre pas son but. Parce qu'il sait ses appartenances d'origine, sa culture d'origine, qui sont camerounaises, et né sur le territoire camerounais aussi, en plus de ça. Donc il sait, il a senti vraiment que, oui, c'est le football, je dois performer, je dois marquer. Mais le geste noble qu'il a fait était remarquable. Raison pour laquelle je me pose la question, pourquoi les Camerounais s'acharnent contre lui? C'est vrai, ils sont binationaux, ils ont choisi de jouer pour leur pays, le pays qui les accueille, le pays qui a développé leur qualité footballistique pour être à ce niveau-là, au niveau international. Il y a une décision qui se fait, soit tu joues pour ton pays d'origine, ou tu joues pour le pays qui t'accueille. Et d'ailleurs, il ne joue pas en Suisse, il joue en France, il joue à Monaco, mais c'est la Suisse qui lui a donné cette nationalité. Peut-être qu'il a grandi là-bas ou il a joué. Il a fait ses petites catégories là-bas, mais il joue pour la Suisse aujourd'hui. Je ne vois pas la différence. Vous prenez l'équipe de la France aujourd'hui, les 80 à 85%, c'est les binationaux, ou disons, c'est les jeunes d'origine africaine, donc d'où l'importance de la diversité dont on parlait tout de suite. Ouais, le football est devenu vraiment prône la diversité et... C'est ce qui fait aussi la noblesse du football. Quand tu es meilleur, tu es pris. Tu peux jouer pour le pays. Contrairement sur le plan politique, la politique dont on parlait, la politique est reliée au sport aussi. On ne peut pas les séparer. Mais on sait aujourd'hui, dans les pays européens, ce n'est pas évident. Même ici aux États-Unis, ce n'est pas évident. On a donné la chance à Barack Obama. Oui, il y a les Blacks qui performent au haut niveau sur le plan politique, mais dans les pays européens, c'est très difficile aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu en France, quand j'ai voulu postuler à différents postes en tant que coach. Ce n'était pas facile, raison pour laquelle je me suis retrouvé aujourd'hui aux États-Unis. Aujourd'hui, ici, on te donne ta chance. aujourd'hui vous voyez les Blacks dans l'équipe nationale des États-Unis, c'est extraordinaire de voir ces jeunes performer. Mais chez les jeunes, c'est pas facile, mais on leur donne de plus en plus la chance de performer au haut niveau. On verra sur les années à venir comment le football aux États-Unis va se développer. Bon, pour revenir sur Brill Embolo, franchement, j'ai pas trouvé ce geste, franchement, au Cameroun comme exemplaire. Je pense pas que c'est exemplaire. Au contraire, je pense que Samuel Eto'o va prendre la parole et essayer de calmer les Camerounais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour la famille d'Embolo aujourd'hui. C'est un peu difficile pour la famille quand même. Je pense que Samuel Eto'o ou le ministre des Sports du Cameroun doit en parler un peu et calmer la population.
Tarsis.
Et son histoire, comment il est parti jusqu'en Suisse, comment il a passé son test pour avoir la nationalité suisse, comment ce garçon a évolué dans les équipes de jeunes jusqu'au plus haut sommet. Son geste, c'est vrai, on le dit tout à l'heure, il a été admirable. Il avait annoncé que s'il marque, il n'allait pas fêter la victoire c'est ce qu'il a fait. Et là, on ne comprend pas parce que quand même, le Cameroun, c'est le grenier, c'est vraiment un pays producteur des champions. Pensez à Yannick Noah, vous pouvez même aller très loin. Et voir que les meilleurs champions qui sont en Europe, un peu partout, viennent de ce pays, du Cameroun. Il faudrait être très très content. Mais là, il y a la réaction du public. Tout Camerounais, tout homme d'affaires camerounais ou je ne sais pas, un ministre rêve à ce que son enfant aille faire des études aux États-Unis ou ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui se passe du côté du Nigeria et de la Libéria, et même du côté des autres pays. On voit beaucoup de joueurs au Canada, aux États-Unis, à la NBA, un peu partout. Donc c'est ça la force du sport. Alors là, ça m'étonne que ça soit comme ça. Je pense qu'ils sont fiers aussi de voir la paix dans l'équipe de France, qui a des origines aussi camerounaises, faire évoluer son pays.
La Coupe du Monde au Qatar regroupe 32 nations. La nouveauté de cette année est que 28 pays présents comptent dans leur effectif des joueurs nés en dehors de leur territoire, des nationaux, des réfugiés ayant fui la guerre. Une observation effectuée par le journal espagnol Marca montre en effet que 137 joueurs représentent des pays autres que ceux où ils sont nés. L'Afrique, donc pourvoyeur et continent d'accueil, les Lions Indomptables comptent dans leur effectif 8 joueurs nés en France. Le Ghana, par exemple, a 9 joueurs binationaux qui jouent dans ce mondial. En quelques secondes, 30 secondes, Tarsis.
Oui, c'est la constitution des États. Quand on prend les États-Unis, comment ils ont été constitués? Ils ont été constitués par des immigrés. La même chose pour le Canada. Et donc, ça ne m'étonne pas que la force demain du football, l'animation du championnat en Angleterre, sont la plupart des Africains. Ça ne m'étonne pas. Je ne dis pas que c'est un mal nécessaire, mais il y a quelque chose. Le mal te pousse à fuir ton pays, à se retrouver ailleurs. Et dans ce pays d'accueil, on est accueilli et puis on grandit là. Et finalement, on parle la nationalité et ce n'est pas seulement un pays d'adoption, ça devient votre pays. Et donc l'Afrique devient... C'est pour ça d'ailleurs que le Comité international olympique a constitué une équipe de réfugiés. Il faudrait que la Fédération aussi de football fasse une équipe aussi de joueurs réfugiés.
Eric, en 25 secondes.
Bon, comme on vient de le dire, l'ossature de ces équipes-là qui contiennent pas mal de joueurs d'origine africaine relate et définit vraiment l'importance de prendre les meilleurs joueurs dans dans les pays, disons, dans les sélections nationales.
C'est sur ce propos que nous mettons un point final à cette édition de l'Amérique. Et vous, merci à Tarsis Haririmana, à Eric Kossi-Chopin, Dionène Gahima a assuré la mise en onde. Eric Manilakis a été avec vous.